et messieurs, ravi de vous rencontrer dans notre troisième épisode de l'Étudiant Time sur Radio G101.5 FM. Bonjour Robin, bonjour Shaima, comment ça va?
Bonjour, bonjour. Salut Shaima, salut Rim.
Salut.
Comment vous allez?
Ça va très bien et toi?
Ça va super. Déjà la troisième émission, ça passe vite, mon Dieu. Ça commence déjà à faire un mois et demi. Et toujours aussi passionné par ce qu'on fait, c'est génial. Aujourd'hui, on va commencer notre première partie avec Rim qui nous parlera de l'estime de soi et des différents facteurs pour améliorer son estime de soi.
Ouais, ce sera plutôt les facteurs impactants.
Ah, les facteurs importants, autant pour moi. En deuxième partie, ça sera Shaima qui nous parlera de l'année de césure.
C'est ça, je vais plus vous parler en fait de la réorientation en cours d'année et les différentes alternatives à la réorientation.
Ah super, bah, surtout que là oui, au bout d'un mois et demi de cours, on a peut-être certains qui commencent à se poser des questions.
Exactement.
Et moi je vous ferai ma deuxième partie sur les musées. Il y a deux semaines, je vous avais parlé des musées d'Angers, mais vraiment des musées d'Angers au niveau local. Là je vous parlerai peut-être un petit peu plus des musées, des châteaux de la Loire notamment. On commence tout de suite du coup avec le sujet de Rim. Je t'en prie Rim, c'est à toi.
Alors oui, aujourd'hui on va parler de l'estime de soi. Alors tout d'abord il faut savoir si ça vous arrive de temps à autre de douter en vous, à ce que vous êtes, de douter en votre propre potentiel ou même de la façon dont vous vous comportez, sachez que c'est normal. C'est normal d'avoir une estime de soi un peu variante, à moins que cette variation soit permanente. Et donc, vous pourriez considérer que vos doutes deviennent anormaux uniquement quand ils durent longtemps, ou lorsqu'un simple fait, voire facteur extérieur, secoue complètement votre confiance en vous. Comme par exemple, quand une personne vous fait une remarque négative du genre « vous n'êtes pas suffisamment compétent », etc., et que vous y croyez tellement que vous commencez à vous sentir effectivement incompétent. Donc c'est dans ce cas-là qu'on pourrait vraiment dire qu'il y a un problème de confiance ou d'estime de soi. Et donc, pour éviter ce genre de problème et pour éviter que notre estime de nous baisse à ce point-là, il est important d'éviter l'exposition régulière à certains facteurs, des facteurs négatifs qui sont capables de réduire significativement à moyen et à court terme notre confiance en nous, et parfois même sans qu'on s'en rende compte. Alors, il s'agit en premier lieu du fait d'être soumis à des discours culpabilisants ou dévalorisants, que l'on pourrait adresser à nous-mêmes ou que l'on peut recevoir de notre environnement, que ce soit d'une connaissance, d'un ami ou même de quelqu'un de la famille. Il faut faire attention parce que ce genre de discours toxique pourrait se présenter parfois sous forme d'un faux conseil ou bien d'une blague passagère, voire d'une remarque considérée constructive alors qu'en vrai elle ne l'est pas du tout. Un deuxième point, il s'agit des violences psychologiques et physiques qui sont aussi capables de réduire significativement l'estime de soi.
Ah bah oui, j'imagine, si on se fait taper dessus, oui, on va pas forcément avoir grande confiance en soi, oui.
Oui, tout à fait. Et ainsi, les comparaisons dévalorisantes. Et là, j'aimerais surtout passer un message si jamais il y a des parents qui nous écoutent. S'il vous plaît, évitez de faire la comparaison entre vos enfants. Cela ne les aidera pas du tout à s'améliorer. Au contraire, cette comparaison les démotivera. Elle baissera leur confiance en eux et pourra même développer chez eux un sentiment d'insécurité ou même une peur d'abandon. Parce qu'en fait, tout simplement en faisant ce genre de comparaison, vous montrez à vos enfants que votre amour est conditionnel et que vous aimez justement un peu plus l'enfant qui a les meilleurs résultats ou qui réussit le plus. Et donc, il faut finalement savoir que cette comparaison, elle n'aide pas vos enfants à évoluer, mais au contraire, elle détruit leur relation entre eux et crée une grande jalousie entre les frères. Un autre point important, c'est l'isolement social ou le manque de communication verbale régulière, qui peuvent aussi faire baisser notre confiance en nous de manière assez importante. Et finalement, il y a le perfectionnisme aussi, alors que l'on peut penser ou que l'on peut considérer comme un avantage, alors que c'est pas toujours le cas. En fait, c'est bien d'être ambitieux et de se fixer des objectifs importants qui nécessitent un effort pour les atteindre, mais il ne faut quand même pas se poser des objectifs difficiles, voire impossibles à atteindre. Parce que vous verrez, avec le temps, vous aurez plus tendance à vous juger et à vous critiquer en regard de ces objectifs.
Oui, en fait, en résumé aussi pour les perfectionnistes, l'idée c'est de réussir à lâcher un petit peu prise en se disant c'est pas grave si jamais c'est pas exactement parfait. Pour éviter de se mettre un stress personnel en plus, c'est ça ?
Oui, exactement. Il faut accepter l'imperfection, accepter ses imperfections et se donner droit à l'erreur de temps à autre. Alors évidemment, on ne fera pas exprès de se tromper et on fera notre mieux, mais quand on n'a pas contrôle sur la situation, il faut laisser aller.
Après, je pense que c'est un peu compliqué parce que la société veut qu'on soit tous un peu parfaits, et surtout au niveau des notes et en termes académiques.
Oui, tout à fait, mais je pense qu'on est un membre de la société, donc en essayant d'améliorer notre façon de penser et surtout en passant ce message aux parents, et j'espère qu'ils vont le prendre en considération, et il faut vraiment éviter d'être trop perfectionniste et de demander à vos enfants d'avoir toujours les meilleures notes, parce que c'est pas les meilleures notes qui font les meilleurs élèves.
Merci beaucoup Rim. On se fait une petite pause avec une petite pause musique avec Crab Rave de Noisestorm. À tout de suite.
Toujours sur Radio G, au 101.5 FM, sur l'émission Étudiant Time. Alors pour ma part, aujourd'hui je vais vous parler de la réorientation, et plus précisément la réorientation en cours d'année. Parce que même s'il est un peu tôt pour s'en rendre compte, même si ça fait un mois et demi qu'on est retourné en cours, il n'y a pas vraiment de moment où on se rend précis pour se rendre compte que les études qu'on fait ne sont pas forcément ce qui nous convient le mieux, que ce soit en L1 ou en master. Et le plus important, c'est de ne pas paniquer ni dramatiser la chose. En fait, ce n'est pas la fin du monde, ça arrive même au meilleur. Et il faut prendre les choses du côté positif. Et ce n'est jamais une perte de temps de se réorienter. Donc il faut positiver et au contraire profiter du temps qui nous est donné pour s'ouvrir à des nouvelles opportunités qu'on n'aurait pas connues sans ça. Et en fait, je parle en connaissance de cause parce que je me suis réorientée il y a 2 ans. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est un peu compliqué d'admettre qu'on n'a pas fait les bons choix et on peut souvent culpabiliser. Mais avec le recul, on se rend vite compte que ça nous apporte énormément en termes d'expérience et de maturité. Et pour les L1 qui nous écoutent, même les autres, il y a beaucoup d'étudiants qui se réorientent et vous ne serez sûrement pas tout seul. Et il ne faut pas se dire que vous allez avoir une année de retard, entre guillemets. parce que en fait c'est soit ça peut être au lycée qu'on est un peu mal conseillé, ou même la société qui donne un peu l'impression que notre parcours doit être linéaire et parfait, alors que c'est complètement faux, en tout cas de ce que j'en pense. Et vous en pensez quoi, vous ?
Totalement. Moi, je sais que mes parents ou bien les amis de ma famille, il y en a quasiment aucun qui a eu un parcours normal en mettant d'abord L1, L2, L3, paf, ils ont leur licence de mathématiques et deviennent prof de maths. Non, il y en a beaucoup qui commencent par exemple une licence d'histoire et deviennent prof, enfin qui deviennent dans l'administration d'un collège, enfin ce genre de choses.
Oui, et je suis tout à fait d'accord avec toi, Shaima, pour un point important que tu as évoqué, c'est le fait qu'il ne faut pas considérer la réorientation comme un échec, mais ça devrait être plutôt un début de réussite.
Oui. Et d'ailleurs, oui, pour rassurer aussi nos L1 qui pourraient nous écouter, ou les étudiants en première année, sachez qu'il y a seulement 40% à peu près d'étudiants qui passent en L2 hein, chaque année, donc c'est normal. Alors, ça dépend des filières, évidemment, hein, mais dans les filières littéraires, sciences humaines, etc., ça tourne autour de 40% qui passent en L2. Donc, si jamais vous vous réorientez, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul.
Exactement. Et du coup, après s'être rendu compte que c'est pas forcément la fin du monde de se réorienter, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Vous pouvez notamment demander de l'aide au niveau des conseillers d'orientation du SUIO-IP, qui est disponible à l'université pour vous accompagner dans vos projets de réorientation. Ils sont disponibles à la passerelle à Belle-Beille du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Et pour les étudiants ne faisant pas partie de l'université d'Angers, n'hésitez pas à demander conseil à l'administration ou aux responsables pédagogiques de votre cursus, et vous trouverez toujours, à mon avis, quelqu'un pour vous aider et vous orienter. Ensuite, pour les étudiants de l'université d'Angers ou non, vous pouvez rejoindre différentes licences en cours d'année. C'est pas éligible pour toutes les licences, mais certaines vous proposent d'intégrer directement au second semestre ou même durant le premier semestre, même si je pense que c'est un peu plus rare.
Oui, au second semestre, oui. J'ai une amie qui était en licence de droit en première année, qui est revenue, qui est arrivée en histoire avec d'autres étudiants en droit d'ailleurs. Ils sont arrivés au deuxième semestre d'histoire, et du coup, ils ont dû tout rattraper en un semestre, les deux semestres. Mais oui, il y a des filières où c'est totalement possible, t'as raison.
Et je pense que c'est super de faire ça, mais après, il faut déjà avoir une idée de ce qu'on veut faire quand même. Enfin, savoir que, en fait, je veux faire ça et pas ça dans un laps de temps assez rapide. Mais du coup, n'hésitez pas à vous informer le plus rapidement possible pour pouvoir effectuer les démarches nécessaires si vous savez déjà ce que vous voulez faire.
Et un point positif que je voulais ajouter et que j'ai remarqué, c'est qu'aujourd'hui, on se rend de plus en plus compte du fait qu'on pourrait, comme on disait tout à l'heure, qu'on pourrait se tromper de notre orientation. Et c'est pourquoi, parfois, on trouve qu'il y a des matières d'orientation qui sont intégrées dans les matières ou dans les unités d'enseignement.
Oui, c'est vrai, les PPPE, projets professionnels, personnels,
oui,
encadrés,
exactement.
Je crois, un truc comme ça. Alors, si jamais votre cours d'orientation ne correspond pas exactement à ce à quoi vous vous attendiez, franchement, n'hésitez pas à aller voir des vrais conseillers d'orientation. Oui, parce que généralement, c'est des enseignants de votre matière principale qui viennent vous faire des cours d'orientation. Allez voir des professionnels aussi, surtout donc le SUIP, comme tu as dit, Shaima, où ce sont des crèmes, ils sont géniaux. Foncez, si vous êtes de l'université d'Angers. Sinon, il y a des conseillers d'orientation un peu partout.
Et du coup, pour les autres alternatives, si vous n'avez pas forcément ce que vous voulez faire directement, je vais vous donner quelques alternatives que vous pouvez faire pendant une année de césure. Alors, tout d'abord, le plus connu, mais pas assez connu à mon goût, c'est le service civique. Ça consiste majoritairement à intégrer une association ou une structure qui va vous prendre en contrat de service civique. Et attention, c'est un statut différent et assez particulier, c'est pas un statut de salarié. Et en tant que service civique, vous allez devoir effectuer différentes missions qui peuvent être variées selon la structure, tout en étant encadré. Au début, on ne vous laissera pas tout seul, en fait, et vous n'êtes pas censé faire le travail d'un salarié. Par exemple, vous avez des structures comme le service des impôts, les écoles ou plein d'associations différentes dans vraiment beaucoup de thématiques différentes. Et c'est très intéressant parce que vous en avez pour tous les goûts. Surtout, c'est un bon moyen de découvrir le monde de la vie active dans différents domaines, différents métiers. Et si vous avez une petite idée d'un domaine qui vous intéresse ou vous souhaitez travailler, ou même vous êtes curieux par rapport à un domaine, un métier, ça peut être une bonne alternative pour apprendre à connaître. Vous pouvez même créer des passions avec ça. Pour le côté technique, en fait, d'un service civique, ça dure minimum 6 mois et maximum 1 an. Et selon la mission dans laquelle vous postulez, les heures sont généralement comprises entre 24 heures par semaine et 35 heures semaine. L'avantage aussi, c'est que vous allez être rémunéré, environ 500 euros par mois, et ça peut augmenter selon les critères sociaux. Donc ça peut être intéressant pour avoir un peu d'argent de poche et économiser pour de futurs projets. Après, ça peut sembler peu, mais normalement, vous n'êtes pas censé faire le métier d'une personne salariée, et donc la charge de travail n'est pas la même. Et ce que je peux vous conseiller, c'est ce que j'ai fait, moi, c'est faire son service civique tout en vivant chez ses parents. Comme ça, vous réduisez les dépenses et vous, ça vous permet de mettre quand même pas mal d'argent de côté. Et vous pouvez aussi faire un service civique à l'étranger. Après, il y a plusieurs destinations, notamment dans les DROMCOM. Donc si vous avez envie d'une expérience à l'étranger avec le service civique, vous pouvez vous informer plus sur cette possibilité. Alors n'hésitez pas à aller sur la page du service civique. Ensuite, je vais vous parler d'un autre programme. C'est très similaire au service civique, mais cette fois, c'est plus orienté vers l'étranger. C'est le Corps européen de solidarité. Cette fois, c'est un programme qui concerne les jeunes, tous les jeunes européens, en fait, pas forcément les Français, entre 18 et 30 ans, qui permet, tout comme le service civique, d'effectuer des missions diverses dans des pays européens. Mais leur point commun, c'est qu'elles contribuent toutes au bien-être et au développement des communautés locales. Les missions durent généralement entre 2 mois et 1 an. Et l'avantage, c'est qu'en fait, tous les frais basiques sont couverts, comme les frais de transport, le logement et la nourriture. Majoritairement, selon les pays, vous serez en colocation en fait, avec les autres personnes qui effectuent une mission dans la même association ou structure que vous. Et tout sera pris en charge, vous aurez un peu d'argent de poche. Selon le pays, le montant varie entre 3 et 6 euros par jour. Et selon moi, c'est un super moyen de voyager tout en se faisant de l'expérience. Et ça permet de participer à des projets intéressants, surtout de rencontrer de nouvelles personnes du coup, qui ont d'autres cultures, qui ne viennent pas du même pays que nous. Vous apprenez une nouvelle culture, vous pouvez apprendre ou approfondir d'autres langues, des nouvelles langues. Et franchement, c'est que bénéfique pour vous. Donc voilà, c'est une liste non exhaustive des alternatives que vous pouvez avoir durant une année de césure ou quand vous vous réorientez et que vous attendez de refaire quelque chose d'autre l'année d'après. Pour moi, ces alternatives, elles sont, même si ce n'est pas les seules que vous pouvez avoir, parce que vous pouvez très bien juste avoir un job étudiant, travailler, etc. C'est très intéressant parce que, autant humainement, mais aussi en termes de formation et d'expérience professionnelle, parce que à, on va dire, 20 ans, entre 20 et 25 ans, dans la vingtaine, c'est rare d'avoir 6 mois d'expérience sur un CV, et encore plus si c'est à l'étranger. Et c'est accessible, on va dire, à tout le monde, même si vous n'avez pas forcément les moyens. Par exemple, le Corps européen de solidarité, c'est, tout est presque financé. Donc même si vous n'avez pas les moyens d'aller à l'étranger, vous avez la possibilité de le faire. Et donc, n'hésitez pas à vous informer sur ces possibilités. Et voilà, c'était tout pour moi.
Super, ben merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Hein, si jamais on veut arrêter les études là pendant un an ou on veut se réorienter, mais c'est trop tard. En fait, il y a beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup, Shaima.
Ne rien, pas de souci. J'espère que je vous aurai informé et aidé.
Et je pense que c'est intéressant ce que tu as dit, Shaima, parce qu'il y a plusieurs étudiants qui arrêtent leurs études et qui n'ont pas le réflexe de faire autre chose en attendant de reprendre. Et je pense que c'est important quand même de faire quelque chose de son année. Déjà, comme tu as dit, pour avoir une expérience professionnelle et surtout pour garder un bon rythme de travail.
Je pense que c'est vraiment le pire d'arrêter son année et de rester là à se morfondre, en fait, à rien faire. pas savoir quoi faire de sa vie et juste déprimer en fait. Il faut directement se dire oui, il y a d'autres alternatives, c'est pas la fin du monde et je vais faire autre chose, je vais faire d'autres expériences et ça me permettra de m'améliorer humainement et voilà.
Oui, ça reste une expérience enrichissante donc c'est intéressant.
Ouais, non, l'étudiant Time 101.5 FM sur Radio G, l'émission qui vous veut du bien, hein, qui veut vous donner des bons conseils pour aller bien dans votre vie. Moi, je vais aussi vous donner des bons conseils pour vous épanouir un petit peu au niveau de la culture. Donc, je vous avais parlé il y a 2 semaines des musées, notamment des musées labellisés Musée d'Angers, du Château d'Angers, du Musée Pincé, enfin, bref, de très jolis musées. Émission d'ailleurs à retrouver en podcast sur radio-g.fr si jamais vous l'avez loupé. Et aujourd'hui, je vous fais la deuxième partie de cet horizon des musées d'Angers et d'Anjou, en vous parlant, par exemple, aujourd'hui, des musées Jean Lursa, de la Collégiale Saint-Martin, de la Bibliothèque universitaire d'Angers, oui, et aussi du Plessis Massé, Plessis Bourré, enfin bref. Je commence tout d'abord avec le musée Jean Lursa. Il fait partie des musées de la ville d'Angers. Il est donc gratuit pour les moins de 26 ans. Il accueille 2 expositions permanentes et 1 exposition temporaire. La plus impressionnante se trouve dans l'ancien hôpital Saint-Jean, un des plus anciens hôpitaux de France encore debout. Et oui, il a été construit en 1175. C'est impressionnant. Il a abrité les malades et notamment les lépreux durant le Moyen-Âge. Le bâtiment a été rénové au fil des années, notamment en 1870, si je ne m'abuse. Et il accueille depuis 1967 le Champ du Monde. Le Champ du Monde, c'est un ensemble de 10 tapisseries faites par Jean Lursa entre 1957 et 1965. Elles mesurent au total 180 mètres de long, pardon, 180, ça va faire beaucoup. Non, 80 mètres de long et 4 de hauteur, qui est, quand on se retrouve devant elles, assez impressionnant. Son œuvre donc, de Jean Lursa reste malheureusement inachevée puisqu'il meurt en 1966. Ses 10 œuvres qu'il a donc créé, pas tout seul, hein, parce que c'est grand, hein, c'est des tapisseries, c'est fait avec plusieurs personnes, mais c'est Jean Lursa qui crée les dessins. Ces 10 œuvres représentent la place de l'homme avec un grand H dans la société. Une œuvre qui montre que l'auteur, Jean Lursa, a vécu les deux guerres mondiales et vivait durant les guerres froides. Le nucléaire et la conquête spatiale, par exemple, sont des thèmes abordés de manière terrifiante, mais avec une très belle beauté de composition, je trouve. Cette tapisserie fait évidemment écho à la tapisserie de l'Apocalypse exposée au château d'Angers. Et comme celle du château, elle est mondialement connue. Alors bon, peut-être on va dire au moins européenne, connue au moins sur l'Europe, puisque c'est la tapisserie la plus grande de l'époque contemporaine, celle de Jean Lursa. Et oui, on n'aurait pas cru qu'Angers serait si riche en tapisseries, et pourtant. Le reste du musée se situe à côté et propose aux visiteurs des tapisseries, encore et toujours, et oui, ainsi qu'une exposition temporaire. En ce moment, et je crois que c'est jusque début janvier, c'est Mesures et Démesures, qui est dédié à la création contemporaine de textiles. À Angers, beaucoup d'anciens bâtiments ont trouvé une place dans notre société contemporaine. Liant histoire et art, la collégiale Saint-Martin vous propose des expositions temporaires toujours plus bluffantes et surprenantes. Passant d'expositions mettant nos sens à l'épreuve, dans une visite dans l'obscurité ou bien objet insolite du territoire tout en gardant les traces de son passé, la collégiale Saint-Martin doit faire partie de vos visites cette année. Attention toutefois, ce musée est privé. L'entrée pour les moins de 18 ans est gratuite, mais pour les étudiants et toute personne de plus de 18 ans, il faut compter 3 euros, 4 euros pour tarif plein. Ce qui me laisse sans voix à chaque fois dans cette collégiale Saint-Martin, c'est de savoir que les premières fondations d'églises à cet emplacement datent du 5e siècle. Les filles, c'est hallucinant. Il y a certaines pierres de cette collégiale Saint-Martin qui ont vécu 15 siècles d'histoire. Il y a aussi la crypte au sous-sol qui est encore mieux conservée puisque elle n'a pas eu les intempéries, elle n'a pas eu les travaux, et on y trouvera des tombeaux mérovingiens, c'est-à-dire de l'ère des rois mérovingiens qui datent donc du 5e siècle jusqu'au 8e siècle. Entre les sculptures de la pierre, qui sont aussi d'une très belle finition, des statuettes, bref, cette collégiale Saint-Martin nous fait découvrir une autre vision de l'art, tout en mêlant le poids de l'histoire de cette collégiale. Entre le poids de l'histoire et l'éphémère des expositions, ce lieu a vraiment tout pour me rendre quoi ? Partons maintenant dans un lieu que les étudiants fréquentent énormément, mais où peu se rendent compte que des œuvres les épient. Les filles, est-ce que vous étiez déjà rendu compte qu'il y avait des expositions d'art à la BU ?
C'est dans des salles à part, non ?
Alors, non, parce qu'il y a vraiment... C'est vraiment en plein milieu de la BU, que ce soit la BU de Saint-Serge, juste en dessous de l'escalier central, ou bien la BU de Belbeil, sur les grands couloirs qui permettent d'accéder aux différentes zones.
Oui, en ce moment, il y a une exposition... C'est des œuvres d'art, ce qu'il y a dans le couloir, en fait, on s'en rend vite compte.
Exactement. Donc n'hésitez pas à lire les petits panneaux d'affichage qui sont à l'entrée pour comprendre un peu mieux ce que c'est que cette exposition. Donc on y trouve tantôt des photographies, des sculptures, des peintures, et ces œuvres sont accessibles à toutes et à tous dans les murs de la BU. C'est à deux pas également de la faculté de Saint-Serge que se trouve le 4, le repère de la direction de la culture de l'Université d'Angers, mais qui abrite aussi une salle d'exposition et une salle de concert. Donc laissez-vous porter par votre curiosité et découvrez les œuvres qui n'attendent que vous. Si le château d'Angers, le musée Pincé, enfin l'hôtel Pincé, l'hôpital Saint-Jean ne sont pas assez de témoignages de l'histoire médiévale pour vous, alors prenez votre voiture et venez visiter les nombreux châteaux de la Loire. Au plus proche de nous, nous avons le château Plessis-Massé, le Plessis-Bourré ou bien le château de Serran, qui sont des domaines avec des domaines immenses, des constructions typiques du XVe siècle et de la Renaissance. Après la visite des logis, des structures à l'intérieur qui sont très luxueuses, vous pourrez vous profiter des hectares de terrain et des points d'eau. En parlant de balade, le château de Pignerolles est à deux pas d'Angers et il laisse à disposition un très grand terrain qui est franchement très agréable, que ça soit pour une simple balade ou pour une sortie avec votre promo. Le château de Pignerolles est parfait pour ça. Et d'ailleurs, il est unique puisqu'il accueille dans son domaine des bunkers de la Seconde Guerre mondiale. Voilà comment mêler Renaissance et Seconde Guerre mondiale avec des associations qui permettent de faire visiter ces bunkers. Et on peut aller même un peu plus loin en regardant le château de Brissac, le château de Saumur avec sa vue sur toute la ville. On peut partir même jusqu'à la forteresse de Chinon et les balafres que le temps lui ont donné, et même jusqu'à Chambord, le clou du spectacle. Vous l'avez compris, la Loire est une zone propice aux visites de châteaux. Si vous préférez rester au local, nous ne manquons pas de structures lourdes d'histoire. Je vous en ai parlé, le château d'Angers, enfin, il y en a énormément. Et ça me permet de conclure cette deuxième partie sur les musées d'Angers et d'Anjou en vous invitant à être curieux. C'est surtout ça, à aller dans les musées, à aller partout là où votre curiosité a envie de vous porter. Et parfois, ça peut même être tout simplement en levant la tête quand vous vous baladez dans la rue. Notre ville est pleine de surprises, le street art notamment aussi, mais voilà, j'ai juste dit ça, ça sera pour une prochaine fois dans l'étudiant time. Merci beaucoup les filles pour cette demi-heure passée avec vous. C'était très intéressant. Entre le bien-être de Rim pour avoir un peu mieux confiance en soi, voir les différents facteurs en fait de confiance en soi, Shaima pour la réorientation et l'année de césure. Merci beaucoup les filles. Je vous souhaite une bonne journée et on se voit dans deux semaines. Ou bien vous pouvez aussi nous retrouver sur radio-g.fr pour nous écouter en podcast. C'était l'étudiant time. Merci Shaima, merci Rim.
Merci à toi Rovin, merci à Shaima et à nos chers auditeurs. Et on vous laisse avec une chanson qui incite justement à avoir confiance en soi. C'est Me Too de Meghan Trainor.
I walk in like a timepiece. I go straight to VIP. I never pay for my drinks. My entourage behind me. My life's a movie, Tom Cruise. So bless me, baby, yeah. And even if they try to, they can't do it like I do. Ooh. I thank God every day that I woke up feeling this way. And I can't help loving myself. Ooh. And I don't need nobody else. No, baby. If I was you, I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. I was you, I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. I'd wanna be me. Oh, if I was you, I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. I'd wanna be me too.
Radio G.